Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux acteurs et actrices de la métropole Aix-Marseille-Provence engagés dans l'écologie et la solidarité. Je suis Camille et je suis accompagnée de Chloé en studio.
Bonsoir.
Et d'Arthur en régie. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux invités, Joël Guillot.
Guillot, oui, bonsoir.
J'ai demandé juste avant l'émission la prononciation, j'ai déjà oublié. Et Marie-Charlotte Bélinguéry.
Bonsoir.
Alors, Joël Guillot, tu es directeur de recherche CNRS émérite au laboratoire CEREG de l'Université Aix-Marseille. Tes principales recherches portent sur l'impact des changements climatiques passés, présents et futurs sur les écosystèmes méditerranéens et tu es particulièrement intéressé au transfert des connaissances scientifiques sur les changements climatiques aux acteurs de la société et au public.
Exactement. Oui.
Marie-Charlotte, alors que tu t'appelles aussi Macha. Macha,
oui.
Macha.
Macha, oui.
Macha.
C'est ton nom. Et c'est mon nom d'artiste en quelque sorte, oui.
Donc toi, tu es médiatrice scientifique et dessinatrice autodidacte et tu as pour vocation d'informer et d'impliquer les citoyens sur les sciences de l'environnement et les problématiques sociétales qui en découlent.
C'est ça, tout à fait.
Alors, aujourd'hui, si on vous reçoit, c'est pour parler d'une BD que vous avez réalisée ensemble, qui s'appelle « Voyage en Anthropocène ». Mais avant de présenter cette BD, on va vous laisser vous présenter. Donc, on va vous laisser nous expliquer le parcours étudiant, professionnel et personnel qui vous a amené à devenir qui vous êtes aujourd'hui, à travailler là où vous travaillez et notamment à réaliser cette BD ensemble.
Ok.
Qui veut commencer ?
Joël, tu veux y aller ?
Bon, d'accord. Alors, moi, je suis chercheur. Émérite, ça veut dire que je suis retraité. Et donc, ma recherche a été sur les changements climatiques du passé. J'ai travaillé là-dessus pendant 40 ans. Et c'est de comprendre comment le climat avait changé dans le passé. Quand je dis le passé, c'est vraiment des passés assez lointains, c'est plusieurs milliers d'années. En utilisant des mesures indirectes du climat, qui sont par exemple l'épaisseur des cernes d'arbres ou les grains de pollen, qui nous donnent des images de la végétation du passé. Et à force de travailler sur le passé, progressivement, je me suis intéressé au présent et au futur, en me disant que est-ce que les changements climatiques qui sont en train de se préparer maintenant ont quelque chose à voir avec ce qu'on a eu, ou bien c'est quelque chose de complètement différent? Et donc, progressivement, je me suis mis à comparer les changements qui sont prédits par le GIEC. Le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un réseau de chercheurs qui compile toutes les informations existantes sur les changements climatiques de manière à alerter les décideurs pour lancer des négociations pour essayer de lutter contre le changement climatique. Et donc, ce GIEC produit des simulations du changement climatique du futur. Et donc, c'est toujours intéressant de voir si ces simulations, ça ressemble à ce qu'on a déjà eu dans le passé, parce qu'on entend souvent dire « oui, mais le climat a toujours changé, et c'est pas bien grave, il changera encore ». Mais non, quand on travaille sur le passé, on se rend compte que c'est complètement différent et que le climat actuellement est en train de changer beaucoup plus vite que ce qui n'a changé dans le passé. Donc, comme ça, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à me dire que ça ne suffit pas de faire des recherches pour essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Il faut aussi alerter le public. Alors, évidemment, plein de gens le font, mais on se rend compte que finalement, l'information passe assez mal. Et donc, cette bande dessinée pour laquelle on a eu l'idée de faire ça avec Macha, c'est peut-être un bon média pour essayer d'alerter les gens. Enfin, on espère, en tout cas. Mais bon, je ne vais pas en dire plus sur moi, je vais laisser la parole à Macha.
Alors moi, je n'ai pas autant de bouteilles que Joël, je ne travaille pas depuis aussi longtemps. Je suis issue un petit peu des mêmes études à la base, c'est-à-dire que j'ai fait des études supérieures en biologie, puis en géologie, puis en climatologie et paléoclimatologie, donc toujours pareil.
Plein de thématiques différentes.
en beaucoup en OJ. Mais ouais, j'ai fini une bonne partie de mes études, enfin j'ai fait une bonne partie de mes études sur les climats passés, parce que ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, un petit peu de la même manière, je me suis dit j'aime beaucoup comprendre ce qui s'est passé dans le passé, mais j'ai aussi envie de pouvoir agir sur ce qui se passe en ce moment, et notamment le changement climatique et ce qu'on en fait et comment on le traite, comment on agit pour le contrer, entre guillemets. Et je me suis dit, il faut peut-être que je fasse un pas de côté et que je reste pas en science pure et que je, je trouve un moyen de communiquer là-dessus. C'est comme ça que j'ai fait des études de médiation. Donc, j'ai fait un master de, à l'époque, il s'appelait médiation en environnement et communication scientifique. Et donc, je suis devenue médiatrice scientifique. J'ai travaillé 3 ans et demi, 4 ans presque dans des laboratoires de recherche dans lesquels j'ai rencontré Joël, justement. Et c'est à la suite d'un travail... Enfin, on a travaillé ensemble un petit moment. Et puis, Joël faisait des conférences régulièrement pour parler justement du changement climatique à des publics assez variés. Et il m'a dit, j'aimerais bien des fois pouvoir les rendre un peu plus vivantes, mettre des petits dessins pour expliquer des choses, parce que des fois, c'est pas forcément parlant, toujours un graphe en fonction du public auquel il s'adressait. J'ai commencé à lui faire un ou deux petits dessins, puis il m'a dit, en fait, c'est pas mal, on pourrait faire beaucoup plus, on pourrait carrément raconter une BD, enfin une histoire en BD sur le changement climatique. Et c'est de là que c'est parti, et moi, j'ai commencé à travailler comme ça là-dessus. Et depuis, je ne travaille plus dans son laboratoire, je suis devenue médiatrice scientifique et illustratrice indépendante, mais on a fini cette histoire ensemble et peut-être qu'on en continuera d'autres, on verra.
Tu dessines depuis longtemps ?
Oui, depuis, c'est un peu cliché si je dis toujours, mais c'est un petit peu ça. Et j'étais très contente de pouvoir d'arriver en médiation et de me dire qu'en fait j'étais capable de pouvoir apporter ce côté dessin dans la transmission des savoirs, parce que c'était très très complémentaire de pouvoir se dire on a un texte, on a une information et on a une image, et quand on compile tout ça, ça donne une information ultra riche et ultra facile à diffuser, quoi. Donc ouais.
Et pour les auditeurs et auditrices qui nous écouteraient, médiatrice scientifique, ça consiste en quoi réellement?
Alors un médiateur, une médiatrice, c'est quelqu'un qui va dans un premier temps transformer une information complexe et qui va pouvoir la transmettre à différents publics un public très large et de façon très large, c'est-à-dire que c'est pas forcément juste de la communication, c'est aussi comment est-ce qu'on imagine des dispositifs pédagogiques pour permettre à quelqu'un de s'approprier l'information, de s'approprier les techniques qui permettent de comprendre, d'analyser une information, etc. Enfin, c'est tout un processus pédagogique qui est super intéressant. Et un médiateur ou une médiatrice est là pour faire cette passerelle en fait, entre l'information complexe et la réception et l'appropriation du contenu de cette information.
Et du coup, la BD, elle répond complètement elle est dans la continuité de ce que tu peux faire, puisque c'est une BD quand même hyper pédagogique. Mmh. Donc du coup, ça répond en partie à ce que tu peux faire dans ce...
C'est une très grosse partie.
Un outil.
Déjà, ouais. C'est un outil. C'est vraiment c'est ce que je disais tout à l'heure. La BD qu'on a faite, c'est vraiment un superbe outil de médiation, dans le sens où on a pris une information, on l'a transformée pour qu'elle soit plus accessible, on lui a associé une image, on lui a associé une histoire. Et donc en fait, tout ça, ça permet d'emprunter un autre canal de diffusion et d'apporter une information à des publics qui n'ont pas forcément l'information par les canaux normaux et de se l'approprier d'une autre manière. Enfin, si, il y a un truc tout bête, c'est que quand typiquement quelqu'un qui est dyslexique, il va avoir du mal ou il va être plus longtemps à lire un texte issu du GIEC, typiquement. Il pourra le faire, hein, mais ça sera plus laborieux, par exemple, alors qu'une BD ou même des images sous forme de schéma, ce sera une méthode d'apprentissage et de façon d'acquérir l'information beaucoup plus très différente et beaucoup plus rapide pour quelqu'un, par exemple, de dyslexique. Et donc, c'est là qu'on voit en fait, la force des différents canaux de diffusion de l'information et l'importance en fait, de les diversifier pour pouvoir passer des messages qui sont aussi importants.
Oui, mais je voulais ajouter deux choses. D'abord, le chercheur, par définition, il fait de la recherche et il n'est pas forcément apte à communiquer sur sa recherche vers le grand public. Ça, on apprend ça, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de chercheurs qui ne le font pas. Donc, le médiateur ou la médiatrice scientifique, c'est vraiment quelqu'un qui fait le pont entre le chercheur et le public. Et c'est vraiment très important parce qu'il y a des codes à observer. Et donc, Macha fait ça très bien. Et pour la BD, je dois aussi préciser que, on a discuté sur ce qu'on allait mettre dedans, etc. Mais si on avait juste traduit mes idées comme ça, sans médiateur scientifique en dessin, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Grâce au talent de médiatrice de Macha, elle a vraiment trouvé les moyens donc ce n'est pas uniquement une question de dessin, c'est aussi le moyen de présenter les choses de manière accessible. Et évidemment, le dessin, c'est vraiment un médium tout à fait intéressant parce que un dessin, ça remplace un discours, quoi. Donc, ça a vraiment bien fonctionné. Oui.
Il est flatteur avec moi.
Et c'est donc vous qui avez, Joël, réfléchi à toute la ligne éditoriale, on va dire, de la BD, et ensuite Matcha a illustré, ou du coup, on comprend que c'est un vrai travail de collaboration pour le tout, en fait.
Voilà. Donc, j'ai essayé de donner quelques idées sur le scénario en général, mais Macha a beaucoup retravaillé tout ce que je lui ai fourni, et puis on en a beaucoup discuté ensemble également. Oui. Et ça a pris pas loin de 2 ans, je crois.
Oui, hein. Plus d'un an et demi, oui. C'était un peu long. Mais en fait, Joël, il avait vraiment cette envie de raconter l'histoire de tout ce qu'il explique d'habitude, ce sur quoi il travaille aussi. Et il avait ton histoire, ton scénario était super. Enfin, on avait quand même une idée très globale de ce que tu avais envie de raconter. Et moi, j'étais plus là pour lui dire, bah, ok, mais là, tu veux raconter ça, mais comment on fait pour le raconter? Est-ce qu'on va parler de ça? Pourquoi est-ce qu'on choisirait cette information-là? Est-ce qu'on ne prendrait pas ces personnages pour incarner ce genre de choses? Enfin, du coup, moi, j'étais là pour tirer un peu le fil rouge de l'histoire, pour le rendre vraiment, le romancer vraiment, et essayer aussi de structurer quelles infos on donne en premier, quelles infos on donne par la suite. Alors, Joël, il avait vraiment la globalité du truc, ce qui est très bien. En fait, ça, je pense que dans une collaboration assez classique entre, on va dire, un auteur et un illustrateur, c'est aussi souvent comme ça que ça se passe. Et là, il y a vraiment eu... J'étais pas que illustratrice. Et c'était ça qui était intéressant dans le travail, c'est qu'on a vraiment travaillé tous les deux à l'élaboration de l'histoire complète, quoi. C'était très chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Mais je vous propose que Chloé nous lise le résumé de l'histoire pour entrer un peu plus dans la BD.
Voyage en Anthropophène. Ellie Pease, une jeune fille inquiète pour son futur, s'interroge sur le changement climatique et ses conséquences. Elle veut comprendre ce qu'il se passe, dans l'atmosphère et dans la société. Son grand-père devrait pouvoir l'y aider, mais comment un spécialiste des temps passés peut-il avoir des réponses? Sans le savoir, elle embarque pour un voyage à travers le temps et l'espace à la découverte de l'Anthropophène.
Je me permets de donner une petite correction, c'est Anthropocène.
Anthropocène, c'est ce que je dis. Anthropocène. Et du coup, en préparant l'émission, j'ai vu que Elpise, ça veut dire donc espoir en grec, c'est ça? Ça a été, à mon avis, choisi aussi par rapport à sa symbolique. Parce que c'est vrai qu'il en faut de l'espoir aujourd'hui pour imaginer un monde où il y a potentiellement des solutions pour œuvrer un monde meilleur.
Globalement, je peux peut-être laisser Joël en parler, mais il n'y a pas qu'elle qui a un nom qui signifie quelque chose dans l'histoire. On ne va pas donner tous les prénoms, mais vas-y, si tu veux.
Oui, j'avais envie de mettre un peu des noms de la coloration grecque dans l'histoire. Donc, Elpis, Espoir, le grand-père qui travaille sur les climats passés, j'ai pensé qu'on pouvait l'appeler Diachrone, qui veut dire « à travers le temps ». Et ainsi de suite, on a d'autres personnages dont le nom aussi... Vient du grec. Il y a aussi une spécialiste du GIEC qu'on a. Là, ça, c'est pas grec, ça, simplement, je pensais l'appeler Giekova. Et la prêtresse du GIEC, si on veut. et puis voilà, c'est intéressant. Alors, il y a des personnages qui travaillent à l'échelle globale, donc par exemple le GIEC, mais après, on a voulu aller à l'échelle locale, et puis mais ça, peut-être qu'on en parlera plus tard. Et c'est à la fin, en tout cas, ça se termine. Non, c'est pas à la fin, mais en tout cas, on arrive assez rapidement à aller vers Marseille, vers la Méditerranée.
Et pour rebondir sur le prénom d'Elpise, c'est vrai que c'est le personnage un petit peu principal de la bande dessinée, avec son grand-père, évidemment, qui est là pour la guider. Et son prénom qui veut dire espoir, c'est effectivement pas du tout anodin. C'est parce qu'on s'est dit que... Elle est jeune, elle incarne un petit peu la génération qui arrive, qui se pose des questions sur le climat, qu'est-ce qui se passe dans notre société, comment est-ce qu'on va faire en fait face à tout ça, comment est-ce qu'on va s'organiser. Et donc forcément, elle a ce côté un petit peu enfantin, j'allais dire naïf, pas forcément naïf, mais justement porteuse d'espoir et porteuse d'envie de bien faire les choses. Et on va la suivre en fait tout au long de son... ce que tu disais tout à l'heure, son voyage initiatique à travers le temps, à travers l'espace, pour comprendre... ce qui se passe aujourd'hui et demain.
J'ai une question qui m'est venue quand Joël s'est présenté, parce que le grand-père est paléoclimatologue. Alors Joël, est-ce que tu t'es inspiré de ta propre carrière pour ce personnage?
Ben oui, évidemment. Et Elpise, c'est
Macha
aussi.
Il me dit tout le temps que c'est moi.
Et paléo... climatologue, du coup, donc paléo, c'est ancien, c'est ça ?
Oui.
Et donc, le reste du mot, donc, c'est les recherches passées sur le climat, c'est ça ?
Sur le climat passé, oui. Donc, c'est remonter le temps pour essayer de comprendre comment le climat a varié dans le temps. C'est ben, tout ce qui est paléo, hein, il y a un paléo-anthropologue. C'est tout. Quand on parle, par exemple, de la grotte Cosquer qui a inauguré il n'y a pas longtemps à Marseille, ben, c'est de la paléo-anthropologie. C'est, tout ça, c'est paléo, c'est le passé. Quoi, voilà.
Alors, il y a 4 chapitres dans cette BD. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer voilà, la chronologie, qu'est-ce qui se passe, quelles thématiques sont abordées dans les 4 chapitres ? Oui. Sans trop nous en dire non plus pour les auditeurs qui voudraient lire la BD.
Partage les chapitres.
Oui, mais je peux faire le début si tu veux.
Vas-y.
En gros, au début, donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on commence sur, on découvre Elpiz et son grand-père, on suit en fait Elpiz qui se pose des questions sur ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, son premier réflexe, ça va être de se dire, je vais aller voir mon grand-père qui travaille sur, a priori, le climat, bon, les climats passés, mais les climats quand même, et je vais essayer d'avoir des réponses déjà sur qu'est-ce que c'est le climat, les fondamentaux, en gros, c'est quoi la différence entre le climat et la météo, par exemple, ou comment est-ce qu'on étudie un climat, quels sont les mécanismes pour le comprendre, que depuis quand on l'étudie, etc. Donc ça, c'est vraiment, c'est la partie un peu introduction à c'est quoi la science du climat, c'est quoi le climat et c'est quoi la science du climat. Et puis, une fois qu'elle a toutes les réponses, ou en tout cas une bonne partie des réponses, elle se pose forcément plus de questions. Pour y répondre, en gros, on arrive dans une deuxième partie où là, on est plus sur comment est-ce qu'on étudie le climat et comment est-ce qu'on prend des décisions face à... Enfin, comment est-ce qu'on collecte... Pas forcément prendre des décisions. Comment est-ce qu'on collecte les informations et comment on les diffuse ? Et comment est-ce que tout ça fonctionne, en fait ? Donc, forcément, on va parler du GIEC, mais on va aussi parler de groupes plus locaux, plus réduits, mais qui sont tout aussi importants. Et là, en fait, c'est... En fait, petit à petit, on se spécialise, ou en tout cas, on arrive de plus en plus précisément sur c'est quoi le climat, comment ça marche, comment on sait que ça marche comme ça, et comment est-ce qu'on centralise toutes ces informations, et comment on sait aujourd'hui qu'il change et qu'il y a un problème, en gros.
Ou décortiquer complètement
On décortique tout.
La notion.
Voilà, donc la première étape, c'est d'aller au Climascope, qui est l'endroit où on étudie les climats, et donc c'est là qu'elle rencontre Giekova. Et puis après, ils enfourchent le vélo cargo spatio-temporel pour aller se balader à différentes périodes du futur et du passé également, et puis différents pays également. Où justement, soit il y a des catastrophes qui sont liées au climat, par exemple le niveau de la mer qui monte à Venise, qui met en danger la ville, ou bien alors aller rencontrer des gens qui luttent dans leur coin contre le changement climatique, qui apportent un peu leur petit...
Leur pierre à l'édifice.
Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle la part
du colibri.
Voilà.
Et puis là, en plus, c'est vraiment la partie où on apporte pas forcément des solutions, aussi une partie des solutions, mais aussi, en fait, on voit à l'échelle locale et au niveau des gens, comment est-ce que, une fois qu'on a compris toute la partie théorique de l'information liée au climat, qu'est-ce qui se passe en vrai, en fait ? Qu'est-ce qui se passe sous nos pieds, dans notre air, dans nos montagnes, dans nos vignes, enfin bref, on aborde énormément de choses comme ça, et c'est là que c'est sympa. Moi, j'aime bien cette partie-là parce que c'est vraiment ancré dans le concret, quoi, dans le palpable. Et
puis ça donne de l'espoir aussi, on voit qu'il y a des choses à faire.
Oui, complètement.
Oui, par exemple, ils vont voir une ferme d'agroécologie, et donc on en profite pour expliquer ce que c'est l'agroécologie. Et l'agroécologie, c'est un peu les pratiques écologiques qu'on met dans l'agriculture pour essayer d'arrêter cette agriculture intensive qui détruit l'environnement. Et on remplace les engrais par du fumier, du compost, etc. On fait interagir les différentes plantes entre elles. On met des arbres, on ne se contente pas simplement de faire des grands champs uniformes. On proscrit le labour aussi qui détruit le sol. Et donc tout ça, ça a à la fois des possibilités de s'adapter au changement climatique, parce qu'il faut moins d'eau pour ce type d'agriculture, et en même temps, ça permet aussi de stocker du carbone dans les sols, donc à piéger du carbone qu'on a déjà émis dans l'atmosphère, et donc qui contribue au réchauffement climatique. Et bien on le piège, et il se fait enfuir dans le sol, et donc c'est du carbone qui ne va pas contribuer au réchauffement. Donc, c'est ce genre de solutions qui sont à la fois s'adapter et à la fois atténuer le changement climatique. C'est vraiment des solutions très puissantes et c'est un peu tout ça qu'on va voir sur le terrain.
Et on essaye de l'aborder de façon claire et concise, parce qu'on pourrait réécrire des pages entières sur ces méthodes-là, mais évidemment, là, on est juste là pour les présenter, donner des pistes et donner, comme tu disais, de l'espoir un petit peu, parce qu'il y a des choses qui existent et qui peuvent être mises en place.
Et alors, à qui s'adresse, à quel public s'adresse la BD exactement?
Alors, à tout le monde, globalement, parce qu'elle est accessible, même à quelqu'un qui n'a pas forcément de bagage scientifique à la base, ou qui n'a pas encore fait beaucoup d'études, ou qui n'a pas fait d'études. Mais globalement, on s'était dit que, en tout cas, quand on l'a faite, on visait plutôt un public scolaire à la base, parce qu'on s'était dit que c'était une cible importante déjà, et puis parce que c'était le format BD, c'était quelque chose qui pouvait aussi leur parler et leur apporter quelque chose autre que les cours ou les informations écrites plus classiquement. Tu veux apporter?
Oui, en fait, on peut avoir différents niveaux de lecture.
Oui.
Je pense que si on m'a rapporté déjà que des parents l'avaient donné à leur gamine qui était en primaire, elle a pris des choses qui l'intéressaient et ça lui avait bien plu. Oui. Et puis si on arrive au lycée, là il y a des notions scientifiques qui sont plus dures et le lycéen est capable de les intégrer. Et les adultes évidemment encore mieux, quoi. Donc je pense que tout le monde peut trouver quelque chose dans la BD. Oui. Voilà. De 7 à 77 ans, quand même.
C'est large.
C'est large.
Et pour revenir sur le voyage d'Elpiz et de son grand-père, au début, ils arrivent à Marseille.
Oui.
Et ils rencontrent, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais un monsieur qui travaille au Grec.
Oui, tout à fait. Toi, nous, le Grec.
Et donc, c'est une bonne occasion de nous dire ce qu'est le Grec.
Oui, tout à fait.
Alors, le Grec, ça veut dire groupement régional d'études du climat. Donc ça veut dire quelque chose. Donc on a joué sur ça pour l'appeler Toinou, il s'appelle Antoine en fait, et ça fait Toinou le Grec. Et donc le Grec, c'est un groupe, un réseau de chercheurs qui essayent de traduire tout ce que le GIEC nous donne à l'échelle globale, eh bien le traduire à l'échelle régionale. Donc quand je dis régionale, c'est la région PACA. Et donc ce Grec existe depuis 6-7 ans. Et il produit des cahiers de vulgarisation sur l'impact des changements climatiques, sur des solutions à mettre en place pour lutter contre le changement climatique ou s'adapter à l'échelle de la région. Et ce Grec qui existe maintenant en PACA, ça a fait tache d'huile et maintenant on en trouve à peu près partout en France. C'est vraiment un maillon fondamental entre l'information du GIEC qui est quand même assez compliquée et ce qui parle aux gens, c'est de savoir comment chez moi... dans ma maison ou à côté de ma maison, dans ma ville, comment ça se traduit. Et donc, le Grec fait vraiment un très bon boulot là-dessus. Il a produit des cahiers à peu près dans tous les domaines. Et d'ailleurs, actuellement, Macha s'occupe aussi de faire des infographies pour justement améliorer encore l'accessibilité de l'information produite par le Grec.
Ah, super, donc on retrouvera tes dessins dans les futurs rapports.
C'est ça, exactement, dans les synthèses des rapports sur chacune des thématiques. Donc on est en train de travailler à ça. Mais je rebondis sur ce que disait Joël, effectivement le Grec c'est vraiment un mini GIEC qui est vraiment important pour comprendre ce qui va nous arriver à l'échelle très très locale. Moi je me souviens que quand j'ai découvert ce qu'ils faisaient, Je lisais beaucoup les rapports du GIEC et je savais par exemple, je connaissais à l'époque la température globale des océans et je savais de combien elle allait monter de façon globale. Mais ça c'est une moyenne et c'est extrêmement dur de se dire ok, globalement les océans mondiaux, l'eau mondiale en tout cas va augmenter de tant de degrés, mais ça ne me donnait aucune information sur la mer Méditerranée, sur les côtes de Marseille, typiquement, dans 50 ans, ça sera quoi, on sera à quelle température? Et c'est très très différent, ça peut être très très différent localement. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est super que ça ait fait tache d'huile, comme tu disais, c'est que maintenant, si on a des groupes comme ça, régionaux, un petit peu partout en France et dans le monde, j'espère qu'on en aura aussi, ça doit exister dans d'autres pays,
oui.
Ça existe. Et c'est primordial qu'on ait ça, parce que les informations globales sont essentielles, et le GIEC est essentiel, mais il faut aussi qu'on ait les informations locales pour pouvoir s'y adapter encore mieux. Donc ils font vraiment un super boulot, et je suis ravie qu'on puisse encore travailler avec eux.
Et notamment, une chose qui montre que c'est important d'étudier à l'échelle locale, c'est le paradoxe méditerranéen. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu?
Est-ce que je te laisse en parler?
Alors le paradoxe méditerranéen, c'est le fait que on est dans un climat chaud, et sec. Les étés sont secs et chauds, évidemment, comme particulièrement cette année. On a eu un été extrêmement... Enfin, c'est un des records. Et pendant cette longue période sèche, les sols durcissent parce qu'il y a de moins en moins d'eau. Si on ajoute à ça le fait qu'on a en région méditerranéenne, c'est hyper construit, on a énormément de bâtiments et les infrastructures sont souvent sur le littoral. Donc on a des sols qui sont complètement imperméabilisés. Et quand arrive l'automne, la mer Méditerranée reste chaude plus longtemps que les terres, qui les terres se refroidissent plus vite. Mais donc les masses d'air qui nous arrivent sur la mer Méditerranée, elles se chargent en humidité parce que l'eau étant chaude, eh bien ça s'évapore beaucoup. Et elles sont très humides et quand elles arrivent sur le continent, eh bien, elles montent à cause du relief et ça fait des orages assez importants. Donc on a à la fois en été des sécheresses et en automne on a des inondations. Donc c'est ça le paradoxe méditerranéen, on a deux situations extrêmes qui ne cohabitent pas en réalité. C'est deux saisons différentes, mais vu de loin, ben, on a l'impression que la Méditerranée doit lutter à la fois contre la sécheresse et contre l'excès de pluie.
Oui, puis en plus, l'une ne remplit pas l'autre. C'est-à-dire qu'on a beau avoir beaucoup de pluie après, ce ne sont pas des pluies qui vont forcément... Enfin, c'est toi l'expert, mais ce ne sont pas des pluies qui vont remplir les nappes phréatiques ou quoi. C'est des pluies qui vont plutôt entraîner des inondations, des choses comme ça. Donc c'est vraiment...
Oui, en fait, oui, j'ai été incomplet. À cause de l'imperméabilisation des sols, eh bien, l'eau ne rentre pas dans les sols. Elle ruisselle et elle retombe dans la mer. Donc c'est de l'eau qui ne sert à rien du point de vue de l'humain. Oui.
Et de la nature aussi, comme ça. Il
n'y a rien qui va, quoi.
Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser que, donc, au tout début de la BD, vous présentez également l'anthropocène, ce qui est quand même très important, puisque c'est un mot qui fait partie du titre de la BD. Et en fait, l'anthropocène, vous pointez du doigt que ça met la faute sur tous les humains, de tous les pays et de tous les temps. Et donc, vous introduisez un autre terme qui est très intéressant. Et je vous laisse nous dire lequel.
Le capital...
Qui est peut-être plus près de la réalité.
Le capitalocène. J'arrive jamais à le dire.
Le capitalocène,
voilà. En fait, c'est l'idée, l'anthropocène, ça veut dire que tous les humains sont responsables de ce qui nous arrive. Et en gros, c'est tous les indicateurs qui sont économiques, qui soient démographiques, ont une allure exponentielle et qui, enfin, tout devient de pire en pire. Et donc, finalement, on est dans une période où ce n'est plus la nature qui imprime les changements, mais c'est l'homme. Et donc, il y a des plastiques, il y a énormément de pollution et le climat lui-même en train de changer. Alors, pourquoi le capitalocène ? Eh bien, c'est simplement parce que tout le monde n'est pas responsable de la même manière. Et Macha a bien montré ça avec deux dessins où on montre un bébé qui joue, qui a plein de jouets autour de lui. Évidemment, c'est un bébé occidental. Et à côté de ça, il y a un bébé africain qui, lui, a juste le strict minimum, quoi. Et les deux ne sont pas égaux dans la responsabilité. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Alors, le terme ne vient pas de nous, hein. Il y a d'autres chercheurs, plutôt des gens qui travaillent dans les sciences sociales, qui ont introduit ça. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais... je trouve que ça décrit bien la situation.
Donc on pourrait aussi appeler la BD « Voyage en capitalocène ».
Oui, mais on s'est dit qu'on la vendrait moins facilement comme ça.
C'est peut-être un terme un peu moins connu, alors que l'anthropocène, oui. On en entend plus en plus parler.
Bah, en plus, à la base, c'était il y a longtemps, maintenant ça commence à être plus établi, mais c'était un terme qui était un petit peu débattu dans les sphères scientifiques, notamment chez les géologues qui définissent les aires géologiques. L'anthropocène, c'est considéré aujourd'hui presque, alors il y a encore pas forcément consensus, mais comme une époque géologique, parce que c'est ce que disait tout à l'heure Joël, c'est que c'est le... Quand on définit une aire géologique, en gros, c'est souvent quand on retrouve une couche de certains éléments dans le sol, et on se dit, bah ok, cette couche-là, c'est parce qu'à cette époque-là, il se déposait ça au fond des océans, il y avait plus ou moins de carbone, il y avait plus ou moins de... Il y avait des ossements, il y avait des machins, bon bref, il y avait des marqueurs qui nous disaient, ça c'est cette époque-là parce qu'il y avait des dinosaures, ça c'est cette époque-là parce qu'il y avait telle plante ou telle plante. Et en fait, l'anthropocène, donc anthropos ça veut dire homme, et scène, ça veut dire l'époque, l'air, C'est vraiment l'époque où cette couche de terre, entre guillemets, cette couche de sol, on va retrouver des empreintes humaines, mais des empreintes du plastique, des choses qui ne se dégradent pas et qu'on n'avait jamais retrouvées en fait, dans les autres couches de sédiments et des couches géologiques avant. Donc c'est forcément, on a utilisé ce mot-là parce que c'était le principal et c'était celui qu'on utilisait le plus pour parler de notre époque. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'en fait, on a besoin d'appeler notre époque et que de l'appeler d'une manière qui met la faute sur tous les humains en général, c'est facile pour en parler, mais c'est pas forcément la réalité. Et c'est important de se poser la question de qu'est-ce qui nous a mené à tout ça. Et c'est pour ça que le côté capitalocène c'était intéressant et c'était un petit cette histoire de titiller un petit peu le
bah, les là, gens. Là, vous avez eu un exemple des talents de médiatrice scientifique de machin.
Il est vraiment gentil.
Elle a expliqué ça de manière magistrale.
On a l'exemple depuis plusieurs exemples depuis le début de l'émission.
Hein. C'est sympa.
Alors il est 19h30 déjà, ça passe très vite. C'est l'heure de la pause musicale. Quelle chanson avez-vous choisie ?
Alors, choisi, c'est un bien grand mot. Je l'ai un peu imposé, non ? Mais c'est Solstice de Gaël Faye. J'ai eu du mal à le lire. Pourquoi ? C'est une vaste question. Parce que j'aime beaucoup Gaël Faye. Parce que c'est un artiste poète aussi très, très engagé sur beaucoup de sujets, alors d'actualité ou non. Bah, typiquement, très engagé déjà sur... la guerre dans le pays en tout cas duquel il est issu, et puis les guerres en général qui font les réfugiés en général, il parle d'énormément de choses d'actualité. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais pas vous parler de tout ce qu'il fait, je suis pas experte en plus, mais et cette chanson Solstice, j'ai du mal à le dire, je l'aime beaucoup parce que elle est un petit peu mélancolique, mais elle est très très jolie et elle parle un petit peu, ou en tout cas elle évoque le sujet dont on parle aujourd'hui, qui est le climat, le fait que... Vous verrez, de toute façon, c'est poétique aussi, donc c'est pas aussi didactique que ce qu'on peut faire, mais j'aime la façon dont il en parle et j'aime la façon dont il transmet ses idées en général sur des sujets un peu chauds comme ça.
On se retrouve voilà. Après la pause.
Belle écoute.
Jacqueline losing money, and he throws the cards away. Now Jacqueline, he told Billy Lyon, Billy, I'm sure gonna take your life. Now Jacqueline, Lord and Billy Lyon, they was gambling a day.
Knowledge of the infinite, even if you got it just a little bit. Soon as you feel the ground start shaking, all your sleeping dogs start waking. Baby cries through the concrete, genocide, lost a breath of life under God's feet. Genocide of the angels, even murdered instruments, trumpets, banjos. But I still hear singing, mixed between the crying, sirens ringing. Bury my whole tribe, I'm crying, thinking. Rescue us from Zion, God ain't blinking. Bodies held in pile on, clock ain't ticking. One face had a smile on, plot just thicken. Courage of a lion, nine life kitten. Wandering through iron bars, once
that's
prison.
That's Jacqueline, Lord and Billy Lyon. They will get.
Les soumis, les idiots, les vulgaires, à la tristesse de l'Éden, aux clartés de l'enfer. Il faut goûter son sang, car le sang est esprit. On suicide un silence en accouchant d'un cri. J'habite un désastre sous la colère des dieux, où le monde doit s'éteindre pour qu'on ouvre les yeux. Et le vin à la bouche, et le cœur sur le pieu. On fera vœu de renaître de quelques cendres de feu. J'effeuille les corolles de ce qu'on veut de la vie. Un peu de vent sur la peau, les caresses d'une fille, où s'envoler tout là-haut pour crasser l'équinoxe. Être un arbre écrivain en s'écorchant l'écorce. Mais tout ça s'est cassé en un éclair coincé sous une charte de béton armé. Mes enfants, le solstice c'est dans longtemps. Mais longtemps c'est maintenant.
Lord and Billy Lyon, they will get
mind. Now strike a lead.
On se retrouve sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux acteurs et actrices engagés dans l'écologie et la solidarité. Nous sommes accompagnés de Joël et de Macha et nous parlons de la BD Voyage en Anthropocène. Alors, avant la pause, on était sur l'Anthropocène et le Capitalocène. Alors maintenant, on va aborder un petit peu d'autres thématiques et notamment à la fin de la BD, donc le personnage principal qui s'appelle Elpiz a des remarques tout à fait pertinentes et qui font réfléchir. Alors je vais vous citer une des phrases qu'elle dit au sujet du progrès. Maintenant que nous connaissons les impacts de nos progrès, il faudrait inventer d'autres façons de progresser plutôt que de toujours vouloir viser la Lune. Que de toujours viser la Lune, pardon. Et d'ailleurs, ça me fait penser viser la Lune, puis Mars, puis une autre planète. Et voilà, est-ce que vous avez des choses à nous dire sur le
progrès ? En fait, on n'a pas parlé d'un personnage qui est aussi important
qui est
dans
très
la BD,
intéressant.
Qu'on a appelé Technocrasse, qui est un peu le représentant de tout ce courant de pensée qui dit que finalement, on arrivera toujours à trouver une solution technologique pour s'adapter. Et il n'y a pas besoin, il ne faut pas s'inquiéter, l'homme est suffisamment ingénieux pour trouver des solutions à tous les problèmes. Et c'est très dangereux cette attitude parce que ça veut dire qu'on va continuer à émettre des gaz à effet de serre, on va continuer à réchauffer le climat et sans se préoccuper des conséquences. Et même les solutions technologiques, elles ne sont pas au point de toute façon. Et quand elles sont plus ou moins au point, on n'est jamais sûr s'il ne va pas y avoir des effets secondaires qui font que finalement il va y avoir des catastrophes dans un autre domaine. Tout est intégré dans la nature et on ne peut pas dire on va lutter contre un truc en se disant bon ben on va régler le problème. Non, parce que ça va avoir des répercussions sur autre chose, sur la biodiversité par exemple, et donc ça peut mener à des catastrophes. Et donc ce technocrate, il représente vraiment ce courant de pensée et Elpiz, elle lutte contre ça, elle dit ben non, il faut respecter la nature et il faut d'ailleurs se fonder sur la nature, et ça le GIEC le dit également. Les solutions qu'on peut mettre en place pour essayer de, parce que de toute façon le réchauffement a déjà bien commencé, et il faut trouver des solutions qu'on appelle fondées sur la nature pour essayer de limiter le réchauffement. Et ça c'est un peu les tenants de deux écoles Et à la fin, il y a une confrontation entre Technocrasse et Elpiz à ce sujet-là qui est assez intéressante.
Et qui d'ailleurs... Ah pardon.
Non, pardon, mais c'est d'ailleurs à ce moment-là en fait, qu'elle tient le discours que tu viens de citer.
Oui, et qu'il y a tout un débat qui fait le buzz à la fin de la BD et qui rend Elpiz assez connue.
Et tout à l'heure, on parlait juste avant la pause musicale que ce changement climatique, il a un impact, mais pas dû par tout le monde sur notre planète. Et que là, on parle des actions et des solutions, et c'est l'objet du quatrième chapitre, je crois, de la BD. Et est-ce que vous, du coup, dans quelle mesure chacun peut œuvrer à son niveau ? C'est vrai que ça dépend du continent sur lequel on est, ça dépend de quel pays on est. Comment on peut œuvrer chacun à son niveau ? Parce qu'on n'a pas le même impact, en fait, sur le climat. Je trouvais que ça, c'était intéressant aussi d'avoir réfléchi à ça.
Oui, alors d'un continent à l'autre, effectivement... Par exemple, si on fait le bilan de toutes les émissions de gaz à effet de serre qui ont été produites par l'Afrique, par exemple, c'est 3% du total. Et l'Europe, donc l'Occident et avec l'Amérique du Nord, c'est 60%. Donc déjà, on se rend compte que historiquement, on a une responsabilité beaucoup plus grande. Et donc, c'est à nous à vraiment mettre en place des solutions importantes et aider les pays qui, eux, ne sont pas très responsables de ce qui s'est passé, comme l'Afrique, et qui en plus sont en première loge, ils sont très vulnérables, ils subissent des famines, etc. On doit les aider à s'adapter. Et c'est vraiment un problème qui est très important. Et ça, ce problème, on l'a aussi à l'intérieur des pays occidentaux. Parce que si on regarde, par exemple, les hauts revenus en France, hein, ce qu'on appelle le dixième décile des revenus, c'est-à-dire les 10% de revenus les plus élevés, ils émettent 2 à 3 fois plus de gaz à effet de serre que le premier décile, c'est-à-dire les bas revenus, quoi. Donc, on ne va pas demander le même effort aux revenus et aux bas revenus, puisque, en fait, Le GIEC nous dit, actuellement, en France, on émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an et par personne. Mais ces 10 tonnes, en fait, c'est 20 à 25 tonnes pour les hauts revenus et 5-6 tonnes pour les bas revenus. Donc déjà, les bas revenus sont... Ils vont déjà dans la bonne direction parce qu'ils ont été obligés par leur bas revenu. Donc
la sobriété dont on parle aujourd'hui, dont le gouvernement parle beaucoup, en fait, elle va être plus facile, entre guillemets, par les minorités qui en font preuve déjà beaucoup. Et en fait, les personnes, de ce qu'on comprend, de ce que vous dites, c'est que la sobriété, elle va être plus compliquée pour eux, pour ceux qui ont des revenus, peut-être.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des gens qui déjà ont du mal à se chauffer, à ceux qui ont du mal à avoir une température de 19 degrés, de baisser encore de 1 degré leur température, alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui vont chauffer à 25 degrés, quoi. Donc, ce n'est pas du tout le même effort qu'il faut demander. Et alors, j'ai oublié de dire un truc, c'est que l'objectif, ce serait d'émettre 2 tonnes par personne.
D'ici 2050.
Voilà. Si on veut respecter un seuil de réchauffement qui est de 2 degrés et si possible 1,5 degré, c'est ce qu'on appelle l'accord de Paris qui a été signé en 2015, qui nous dit qu'il faut rester à 1,5 degré si possible. Parce que si on dépasse 1,5 degré, il va y avoir des catastrophes qu'on ne va pas vraiment maîtriser. Et donc pour ça, c'est 2 tonnes par personne, quoi. Alors évidemment, les gens qui... En Afrique, ils y sont déjà aux 2 tonnes. Et en France, les plus pauvres, ils ne sont pas loin aussi de ça. Donc c'est vraiment les gros revenus. Alors là, j'ai parlé du dernier décile. Ça, c'est 10%. Ça fait, en moyenne, ça fait 2 à 3 fois la moyenne. Mais si on regarde le pourcentage, le pourcent le plus riche, donc les millionnaires, les milliardaires, en fait, vraiment les super riches. Alors eux, c'est fois 50, quoi, leurs émissions. Et on a beaucoup parlé cet été des jets privés. Par exemple, le milliardaire Bernard Arnault, au mois de juin, il a fait 18 voyages en jet privé, des fois pour des distances qui sont de l'ordre de 500 km à peine. Donc il aurait pu prendre le TGV, même en première classe, ça lui posait vraiment... pas de problème au niveau du temps, en tout cas. Et non, il a fait 18 trajets et ça a émis l'équivalent de 17 années d'émissions d'un Français moyen en un mois. Donc, quand on voit ça, on voit qu'il y a d'abord une justice sociale à respecter si on veut que ça fonctionne.
Ouais. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on dit souvent qu'il n'y aura pas de justice climatique sans justice sociale.
Oui, c'est lié.
L'un ne va pas sans l'autre.
Et d'ailleurs, pour nos auditeurs qui se demanderaient « Mais qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mon empreinte carbone ?» Il y a de nombreux ateliers qui sont très intéressants et interactifs pour ça, comme 2 tonnes, Inventons nos vies bas carbone et l'éco-challenge de Little Big Impact. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà, c'est les 3 auxquels j'ai participé, que je connais, si jamais ça vous intéresse.
Et il y a des logiciels, l'ADEME en a fait un, et on peut mesurer son... Moi, j'ai essayé je suis à peu près dans la moyenne. J'ai plus de voiture, etc. Je me dis, pour arriver à 2 tonnes, qu'est-ce que je dois faire? Plus d'avion, ne plus manger de viande, 2 heures d'Internet par jour, pas plus. Et limiter...
Tu te chronomètres?
Oui. Non, mais je l'ai fait de manière un peu théorique. Et en faisant des gros efforts, je suis encore arrivé à 3-4 tonnes. Donc c'est vraiment très difficile et ça veut dire qu'on ne peut pas y arriver individuellement. C'est vraiment un changement de paradigme au niveau économique qui doit être mis en place. Quoi.
Oui, parce qu'il y a toute une partie de l'empreinte carbone des Français qui est due à tous les lieux publics, je ne sais plus le terme.
Oui, les services publics.
Oui, les services publics, voilà.
Oui, il y a 1,5 tonnes incompressible sur les services publics. Mais on peut quand même les comprimer parce que... Ceux qui ont déjà eu la chance d'aller à l'hôpital, par exemple, peuvent se rendre compte qu'il y a certainement possibilité de faire des économies d'émissions de gaz à effet de serre à l'hôpital, dans les écoles également. Donc ça fait partie des choses qui sont pour l'instant incompressibles.
Dans les entreprises aussi, part à jouer.
Les entreprises ont déjà amorcé leur... En gros, si on regarde un petit peu les évolutions des émissions de gaz à effet de serre d'une société comme la société française... Tous les secteurs ont déjà commencé à diminuer leur empreinte carbone. L'industrie, l'agriculture, le bâtiment. Et un seul secteur ne l'a pas fait, c'est les transports. Et donc maintenant, le levier le plus important, c'est le transport. Alors ça inclut la voiture individuelle, mais ça inclut aussi l'avion, ça inclut les bateaux. Et donc, il faut c'est vraiment le levier qu'il faut, sur lequel il faut jouer actuellement si on veut réduire de manière structurelle nos émissions de gaz à effet de serre.
Oui. Puis comme tu le disais, les actions individuelles sont importantes, mais typiquement quand on réfléchit, moi la première, je vis en appartement. En appartement, je suis locatrice, enfin locataire, pas locatrice, pardon. c'est pas moi qui ai construit cette maison, elle est pas forcément bien isolée, donc forcément je vais consommer plus d'électricité pour la chauffer, pour bref. Et des choses comme ça, typiquement, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas en tant que en tant qu'individuel, en tout cas pas toujours. Et ce sont ça, cette typiquement la rénovation énergétique, c'est forcément quelque chose qui va passer par quelque chose d'encadré, quelque chose de plus national ou régional, mais ça peut pas systématiquement être des actions individuelles. Et ça va même au-delà, c'est-à-dire que quand on réfléchit à la façon dont on consomme, évidemment qu'on a envie de se dire on va acheter des habits, des produits locaux, des produits bio, etc. Mais on n'a pas forcément toujours la possibilité de le faire. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que si on a un cadre politique, un cadre législatif qui encadre tout ça et qui dit ben non, on n'a pas le droit de je sais pas, de faire venir un jean de Chine, je caricature, mais c'est un petit peu ça. Et ça, les actions individuelles sont importantes parce qu'elles vont un petit peu orienter le marché, mais on a besoin d'un cadre.
Et elle joue sur la demande.
Et ça joue sur la demande. C'est quand même très important et c'est important que ça continue de faire pression là-dessus, mais ça ne suffira pas. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a besoin encore d'actions plus collectives pour aller encore plus loin, pour réduire ces émissions de carbone. Et pas que, pour faire plein d'autres choses. Hein, mais c'est ça qu'on a le plus de mal à faire en ce moment et c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette le paquet.
Et justement, on nous présente toujours ces actions-là comme étant quelque chose de punitif. C'est souvent les partis de droite, c'est un peu leur vocabulaire qu'ils utilisent. L'écologie, c'est punitif. Justement pas, parce que, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter le réchauffement du climat? Bien, c'est ne plus utiliser d'énergie fossile. Il faut relocaliser. Il faut avoir une meilleure alimentation, moins de viande, parce que trop de viande, de toute façon, c'est mauvais pour la santé. Relocaliser, ça veut dire recréer des emplois localement. Donc, c'est très bon pour l'économie locale, pour le chômage. Et la suppression des énergies fossiles, eh bien, c'est la diminution de la pollution. Et finalement, la santé va être meilleure. Alors, c'est ce qu'on appelle l'éco-bénéfice. L'avantage de tout ça, c'est que l'éco-bénéfice, ils sont immédiats. On va recréer des emplois très rapidement, on va avoir une meilleure santé, ça c'est immédiat. Par contre, l'effet sur le climat, eh bien, il faudra sans doute attendre 20 ans pour que les mesures qu'on prend maintenant aient un effet sur le climat. Il faut 20 ans parce que les gaz à effet de serre restent entre 10 et 100 ans dans l'air et donc ils continuent. Actuellement, le réchauffement qu'on a, c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre qu'on a eues pendant tout le XXe siècle, quoi, jusque maintenant.
Et je me permets de rajouter un truc, mais juste pour revenir sur le principe d'écologie punitive, moi, je sais que ça me fait souvent penser à un truc, enfin, je fais souvent l'analogie entre ça, quand on dit oui, mais on ne peut pas imposer aux gens de faire ou ne plus faire ce genre de choses juste pour améliorer le climat, ou, etc., parce que c'est nous priver de nos libertés. Et ça me fait penser, je ne conduis pas beaucoup, mais aux limitations de vitesse. C'est-à-dire que oui, on a tous envie de pouvoir prendre la route et aller à la vitesse qu'on veut, mais on a aussi envie de le faire de façon sécurisée et on n'a pas envie de
risquer sa vie.
C'est ça, on veut être vivant à la fin de notre trajet, quoi, et on veut que tout soit fait en sorte pour que ça arrive. Alors évidemment, on a des voitures avec des équipements qui évitent tout ça, mais la réglementation et les limitations de vitesse sont là pour ça. C'est un cadre qui a été mis en place pour dire, bah, ok, là, on pense que dans ces conditions-là, sur ces routes-là, ou avec ce temps-là, typiquement, il ne faudrait pas dépasser ça, et donc on vous interdit de dépasser ça sous peine d'une amende, parce que sinon, vous vous mettez en danger, vous mettez en danger les autres. Et bien, les incitations pour le climat en général, les lois qu'on a envie d'avoir pour ça, c'est exactement la même chose. Et donc, si on est OK pour accepter des limitations de vitesse, ben, on devrait accepter des limitations d'autres choses liées à l'écologie.
De vitesse aussi, d'ailleurs. Il faudrait aussi imposer 110 km/h sur les autoroutes.
Il y a encore des choses à faire, mais voilà, je me dis, c'est on a tendance à voir quand on parle d'écologie punitive, on pense à ça en se disant oui, mais on aurait dû dans la liberté, alors qu'en fait non, on veut juste un cadre collectif qui va nous permettre de rester libre de ce qu'on fait, mais dans quelque chose qui ne nous mette pas en danger, qui ne mettra pas en danger les autres ou le futur. Donc c'est...
Voilà.
C'est
vrai. En fait, ce qui sera punitif, c'est le monde dans lequel, vers où on va. On arrive dans un mur, et ça, ce sera punitif. Parce que si on ne fait rien, ça va être la catastrophe, y compris en économie. L'économie va se casser la figure. Il n'y aura plus rien qui va fonctionner, et on le sait bien. Et ça va coûter beaucoup plus cher, en plus, de réparer les dégâts du réchauffement climatique. Le GIEC a estimé entre 5 et 7 fois plus cher que de prendre des mesures de prévention.
Qu'est-ce qu'on peut dire à des personnes aussi, souvent c'est ce qu'on entend, que écologie ça va pas forcément avec croissance et donc...
Qu'on va retourner à l'âge de pierre.
Oui, voilà.
Ouais, le passage entre limiter la croissance et retourner à l'âge de pierre, il y a quand même
un
gap là, entre les deux. Non,
c'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent.
Mais la croissance est basée sur le PIB. Le PIB, c'est par exemple quand quelqu'un fait un accident et est blessé, il va à l'hôpital, eh bien il augmente le PIB. Donc ce système ne peut pas fonctionner. Le PIB, il augmente, quelle que soit l'utilisation qu'on fait de tout ce qu'on a à notre disposition, on augmente le PIB. Donc c'est un très mauvais indicateur et il faut absolument parler de croissance, de la qualité de la vie, de l'éducation, de la santé. Alors oui, on peut parler de croissance à ce niveau-là, mais la croissance au sens du PIB, non, et effectivement, il faut arrêter ça. C'est vraiment casse-gueule, quoi.
Ouais, on dit souvent dans ces thématiques-là qu'on a besoin de changer d'indicateur et il y a l'exemple du Bhoutan. Alors c'est anecdotique, mais typiquement ils ont instauré l'indice du bonheur. Même si ça paraît anecdotique comme ça, c'est intéressant de se dire que la façon dont on
considère la société aussi,
La société considère les besoins qu'on a, qui sont pas forcément des besoins de richesse et de croissance, ça a été important pour notre développement passé et ça a été ce qui ça a permis de créer tout ce qu'on a créé aujourd'hui, bien ou mal. Bon, c'est comme ça. Et on en profite aujourd'hui pour certaines choses, on en pâtit pour d'autres. Maintenant, on a besoin de repenser à tout ça en se disant qu'est-ce qui fait qu'on avance, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien, qu'est-ce qui fait qu'on est une nation prospère. Et maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas forcément lié à la richesse économique d'un pays global. D'ailleurs, on le voit, de toute façon, c'est pas parce qu'on a un gros PIB qu'on a une justice sociale, qu'on a peu d'inégalités ou quoi. Au contraire, parfois, c'est même
Vous qui êtes en contact avec différentes institutions, est-ce que vous sentez qu'il y a un éveil des consciences, surtout dans le contexte actuel ? On a vécu une énorme sécheresse cet été. Est-ce que vous sentez que la société est prête ? Et vous sentez un élan où on peut aller plus loin ?
Oui, j'ai l'impression que les citoyens sont beaucoup plus prêts à changer que nos gouvernants. Et malheureusement, c'est la sécheresse, c'est les morts, en fait. Tous les problèmes qu'il y a eu cet été, c'est beaucoup plus efficace que les rapports du GIEC, même que cette BD, je pense. C'est vraiment le...
Il faut le vivre pour qu'on prenne conscience.
Voilà. Justement, malheureusement, il faut qu'on vive des catastrophes pour que les gens réalisent ce qui se passe et se disent qu'il faut faire quelque chose.
Ça peut arriver chez nous, c'est pas uniquement en Afrique aussi. Oui. Donc c'est assez égoïste comme comportement, mais je pense... Alors les institutions internationales, évidemment, elles mettent ça à l'ordre du jour. Je suis en contact avec des tas d'institutions qui sont liées à l'ONU, etc. Effectivement, on met ça à l'heure du jour, on fait des grands messes, mais ça ne fait quand même pas beaucoup avancer les choses, parce que c'est vraiment au niveau des pays que ça doit se passer. Et les pays, eh bien, ils ne réagissent pas tous pareil, quoi. Et malheureusement, les négociations qui vont avoir lieu en Égypte,
la COP27,
d'ailleurs...
On parle de la COP26 dans la BD.
Il faudrait qu'on la mette à jour. Donc elle se termine, la BD, avec la COP26. Qui est un peu décevante, et bien on espère que la COP27 va être beaucoup plus percutante dans les décisions. Et il y a deux types de décisions qui doivent être absolument prises et qui étaient prévues déjà dès l'accord de Paris. C'est renforcer nos diminutions d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut la neutralité carbone en 2050. Actuellement, l'Europe, par exemple, en 2050, elle est encore à 56% de diminution. On n'est pas encore les mesures qui sont préconisées, qui ne sont d'ailleurs pas prises encore. Simplement, c'est des promesses. Il faut les renforcer et arriver à une neutralité carbone en 2050. Ça, c'est un type de mesure. Et l'autre type de mesure, c'est aider les pays pauvres à mettre en place aussi une politique d'atténuation du changement climatique et surtout d'adaptation aux catastrophes qu'ils connaissent de plus en plus. Et à Glasgow, l'année dernière, eh bien, ils ont été extrêmement déçus de voir que il y a un fonds, le fonds vert, qui a été mis en place à la COP21 à Paris. Eh bien, c'est 100 milliards d'euros par an pour aider les pays pauvres. Eh bien, actuellement, les pays riches n'arrivent même pas à mettre plus que 60 milliards. Donc déjà, ce qui a été prévu à l'accord de Paris, ils ne sont pas capables de le faire. Et il faudrait en fait augmenter cette somme-là parce que les besoins sont immenses. Donc on va voir en novembre à Sharm el-Sheikh, en Égypte, à la COP27, ce que ça va donner.
Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait, les gens, la population, etc. est prête. Je ne saurais pas répondre à ça, mais on se rend compte que plus les médias s'emparent de ces questions-là, plus les gens sont à l'écoute. Alors bon, forcément, il y a toujours des dissensions, il y a toujours des gens qui sont là pour dire c'est des balivernes, etc. Mais c'est important qu'on en parle et qu'on en parle régulièrement et que même les médias plus communs s'en emparent plus souvent parce que ça, si ça devient quelque chose de commun, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que justement, tout le monde saura que c'est là, tout le monde le prendra en compte en général, prendra le problème du changement climatique en compte dans sa vie en général, et c'est ça qu'il faut en fait. C'est
le rôle des médias, un peu comme ce soir aussi à la radio.
C'est ça.
Voilà.
J'espère.
Alors,
que... merci de nous avoir.
Il y a eu une pétition, un article dans Le Monde qui a été signé par certains journalistes qui déploraient le fait que les catastrophes climatiques qu'on a eues cet été, il y a très peu de médias qui ont fait le lien avec le changement climatique. Mm-hmm. On a des catastrophes, on a des sécheresses, on en a déjà eu, mais bon. Et c'est malheureux, on interviewe les gens, vous avez perdu votre récolte, etc. Mais très peu ont vraiment fait le lien avec le changement climatique. Et ça, c'est vraiment important de le faire et de montrer que ce qu'on a vécu cet été-ci, on l'aura de plus en plus souvent dans le futur.
On n'aura pas d'été moins chaud que ça.
Mais ça va devenir... Mais si, il y en aura. Il y a une variabilité, on n'a pas toujours... Mais... Je veux dire, les pointes de température qu'on a eues cet été-ci, eh bien, on l'aura, au lieu d'avoir ça une fois tous les siècles, eh bien, on aura ça tous les 5-6 ans, et puis plus tard encore presque tous les ans, quoi. Ça va devenir la norme.
Alors c'est sur cette note très positive que nous allons devoir conclure l'émission, parce qu'il ne nous reste que quelques secondes.
Non, positif parce que vous nous avez donné une voix et vous faites partie des médias qui font partie de ceux qui s'impliquent dans le changement climatique. Donc
Bah oui, puis c'est une BD qui permet aussi de voir tout ce qu'on peut faire, donc qui laisse de l'espoir.
Oui, oui, tout à fait.
Donc chers auditeurs et chères auditrices, allez dans les librairies acheter Voyage en Anthropocène. Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci pour votre accueil.